Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Traité des cinq roues ou Gorin no Sho est un bref traité de stratégie rédigé par le sabreur japonais Miyamoto Musashi vers la fin de sa vie et achevé en 1645. Cette édition de poche donne accès à un texte classique associé à son école de combat à deux sabres, la Niten Ichiryu, loin de proposer un manuel de technique isolé. Le livre expose une voie de la tactique fondée sur la pratique, la perception, le rythme, la discipline du corps et la stabilité de l'esprit. Sa structure repose sur cinq livres nommés Terre, Eau, Feu, Vent et Vide. Ces termes organisent moins une doctrine ésotérique qu'une progression établir des bases. Devenir adaptable, comprendre la confrontation, examiner les autres écoles et approcher une attention non entravée. Musashi écrit depuis une expérience de combattant, mais il élargit son propos aux métiers et aux situations exigeant jugements et actions. Le texte demande toutefois une lecture attentive sa concision. Son vocabulaire martial et son contexte historique interdisent de le réduire à une recette moderne de réussite personnelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les cinq roues comme parcours progressif de la tactique, les cinq livres ne constituent pas une simple décoration inspirée des éléments. Ils donnent une architecture à l'apprentissage stratégique. La terre pose les fondations, connaître la voie suivie, organiser les moyens, tenir une position juste et comprendre les principes généraux de l'école. Le lecteur est ainsi invité à commencer par ce qui est stable avant de rechercher des procédés plus spectaculaires. L'eau développe l'adaptabilité. Musashi y associe la souplesse du corps, le maniement des armes et la capacité à ajuster son comportement à la situation. Le feu traite de la rencontre effective, donc de l'initiative, du tempo et de la pression exercée sur l'adversaire. Le vent examine les pratiques des autres écoles, notamment pour mettre en garde contre les habitudes rigides ou les préférences transformées en dogmes. Enfin, le vide désigne une compréhension qui ne dépend plus d'une accumulation de formules. Cette progression a une conséquence importante, la stratégie ne relève ni d'une théorie abstraite ni d'un instinct brut. Elle exige des bases matérielles, une pratique répétée, une lecture lucide des circonstances et un détachement graduel envers les automatismes. Les éléments servent donc à distinguer des niveaux de compréhension sans les isoler les uns des autres. La stabilité de la terre doit demeurer présente dans la mobilité de l'eau, tandis que le calme du vide ne dispense jamais de la précision concrète du geste. Deuxièmement, le combat comme problème de rythme, de distance et d'initiative, le traité se distingue par son attention aux conditions dynamiques de la confrontation. Musashi ne présente pas la victoire comme le résultat d'une force supérieure ou d'une technique secrète. Il insiste sur le rythme, le moment opportun, la distance et la capacité à prendre l'initiative. Dans un duel comme dans un affrontement plus large, agir trop tôt, trop tard ou selon un rythme prévisible expose le combattant. La tactique consiste donc à percevoir le mouvement de l'autre, à déséquilibrer son tempo et à imposer le sien. Cette idée implique une observation active, il ne suffit pas de regarder l'adversaire. Il faut comprendre ce que sa posture, ses hésitations et ses habitudes rendent probable. Musashi accorde aussi une place notable à la pression psychologique. Une présence résolue, une initiative continue ou un changement de cadence peuvent réduire les options de l'autre avant même le coup décisif. Pour autant, il ne recommande pas une agitation permanente. L'initiative utile est liée à la situation et doit rester compatible avec une garde, une distance et une intention claire. Transposer avec prudence hors du combat. Cette analyse éclaire les contextes de négociation ou de décision sous contrainte, préparer les conditions de éviter de subir le rythme imposé et reconnaître que le bon choix dépend du moment autant que de son contenu. Le livre ne fournit pas de modèle universel, mais il entraîne à penser l'action comme une relation mouvante. Troisièmement, la voie des deux sabres et le refus des préférences limitantes, Musashi expose la tactique de son école des deux sabres, qui emploie simultanément le sabre long et le sabre court. Ce point est central, mais son intérêt dépasse la singularité technique. Le maniement de deux armes traduit un refus de la dépendance envers un seul outil, une seule posture ou une seule condition favorable. Pour Musashi, le pratiquant doit pouvoir employer ce qui convient au lieu, au terrain, à la distance et aux circonstances. Le principe ne valorise donc pas la complication pour elle-même. Il critique plutôt la préférence confortable qui fait confondre habitude personnelle et nécessité stratégique. Cette critique apparaît également dans son examen des autres écoles. Il observe les manières de nommer, de tenir ou de privilégier certaines armes afin de montrer comment une méthode peut devenir étroite lorsqu'on la traite comme une fin. Son propre enseignement exige au contraire une maîtrise suffisamment solide pour que les moyens restent disponibles. La polyvalence ne signifie pas une dispersion superficielle. Elle suppose de travailler les fondements avec assez de constance pour changer de réponse sans perdre son équilibre. C'est pourquoi la voie des deux sabres doit être lue à la fois comme une méthode martiale précise et comme une leçon sur les contraintes choisies. Le combattant qui ne sait agir que dans son format préféré demeure vulnérable. Celui qui comprend les fonctions de chaque moyen peut préserver son intention tout en modifiant son exécution. Cette distinction donne au traité une portée analytique plus riche qu'un simple manuel d'escrime. Quatrièmement, discipline perceptive et unité du corps et de l'esprit, le traité des cinq roues ne sépare pas la préparation mentale de l'exécution physique. Musashi demande une attention stable, capable de voir largement sans se laisser capturer par un détail, une crainte ou une anticipation excessive. Cette discipline perceptive ne correspond pas à une absence de pensée au sens littéral. Elle vise plutôt à empêcher les pensées dispersées, les attachements et les réflexes émotionnels de retarder l'action juste. Dans le combat, une conscience trop fixée sur l'arme adverse, sur un mouvement isolé ou sur le désir de réussir rend le geste prévisible et fragilise la perception de l'ensemble. Le corps doit également être entraîné posture, regard, main, marche et usage des armes forment un système cohérent. Cette insistance rappelle que la stratégie, chez Musashi, ne peut être réduite à une série d'idées. Une décision doit devenir immédiatement opérante dans le maintien, le déplacement et le rythme. La répétition a donc une fonction cognitive autant que physique, elle permet de rendre disponible une réponse sans la figer en automatisme aveugle. Cette conception explique pourquoi le texte peut intéresser des lecteurs éloignés des arts martiaux tout en résistant aux simplifications. Il ne promet pas le contrôle absolu de toute situation. Il montre que le jugement gagne en fiabilité lorsque l'observation, la préparation et l'action ne sont pas traitées comme trois activités séparées. La maîtrise recherchée est une présence pratique, éprouvée par les circonstances plutôt qu'affirmée par des principes abstraits. En dernier lieu, une stratégie ancrée dans le réel plutôt que dans la morale héroïque, Musashi écrit en praticien et privilégie, ce qui permet de vaincre dans des circonstances réelles. Cette orientation distingue son traité des discours qui idéalisent le guerrier par le sacrifice, la réputation ou la pureté d'une intention. Le combat reste un cadre de violence. Mais le texte examine surtout les conditions concrètes de l'efficacité, connaître son métier, évaluer le terrain, reconnaître les rythmes, adapter les moyens et éviter les erreurs de jugement. La célèbre portée générale de l'ouvrage vient de cette méthode, non d'une promesse de domination applicable sans limite. La comparaison entre le guerrier et le charpentier illustre cette dimension artisanale. Dans les deux cas, il faut comprendre les matériaux, distribuer les tâches, choisir les outils et viser une réalisation cohérente. La tactique devient ainsi une discipline de fabrication et d'ajustement. Cette perspective aide aussi à situer les limites de toute transposition contemporaine. Les principes de vigilance, d'entraînement et de souplesse peuvent nourrir une réflexion sur le travail ou la négociation, mais ils ne remplacent ni l'éthique, ni le droit, ni la coopération propre aux organisations modernes. Lire Musashi avec rigueur consiste à préserver le contexte martial du texte tout en identifiant ses outils intellectuels. Son apport tient précisément à cette tension, le traité est historiquement situé, parfois abrupt et elliptique, mais il oblige à penser les conséquences matérielles d'une décision. Il ne célèbre pas la force brute, il analyse la compétence comme une capacité à faire correspondre intentionnelle perception et exécution. En conclusion, traité des cinq roues conviendra en premier lieu aux pratiquants des arts martiaux japonais, aux lecteurs intéressés par l'histoire intellectuelle du Japon et aux personnes qui souhaitent aborder Musashi au plus près de son texte stratégique. Il peut également nourrir une réflexion sur la prise de décision, la préparation et l'adaptation, à condition de ne pas le lire comme un guide immédiat de management ou de développement personnel. Son bénéfice pratique réside moins dans des conseils directement transférables que dans les questions qu'il impose : quels sont les fondements réellement maîtrisés ? Quels automatismes limitent la réponse ? Comment percevoir le rythme d'une situation ? Et comment agir sans perdre la vue d'ensemble ? Sur le plan intellectuel, l'ouvrage éclaire une tradition martiale où la technique, la discipline et la perception forment un tout. Comparé à de nombreux livres contemporains de stratégie, il se démarque par sa brièveté, son ancrage dans la pratique du sabre et son refus de dissocier la pensée de l'exécution corporelle. Comparé aux manuels purement techniques, il propose une réflexion plus large sur les conditions du jugement. Sa concision est aussi sa difficulté, les formules demandent contexte, relecture et parfois confrontation avec des commentaires historiques. Cette édition de poche est donc particulièrement adaptée à une lecture lente et annotée. Elle ne remplace pas un apprentissage martial encadré. Mais elle offre un document majeur pour comprendre comment Musashi conçoit la tactique non comme un répertoire de ruses, mais comme une compétence intégrée, continuellement vérifiée par le réel. Si vous souhaitez soutenir Musashi Miyamoto, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.